Donc, bonjour à tous. Je vais vous présenter les effets azotés de l'apport de vinasse à partir d'essais qui ont été réalisés donc, sur de la culture de betterave. Les vinasses sont des coproduits de l'industrie sucrière. Donc, j'associe à cette présentation Nathalie Damet du LDR, Jean-Michel Sassine de Tereos et Jean-Marie Machet de l'INRA de Laon. Je vais tout d'abord vous présenter le dispositif qui a été mis en place sur les expérimentations, puis les principaux résultats sur le sol, les cultures intermédiaires, les betteraves et la validation des conseils avec azofertes. Donc, depuis 2005, des essais ont été mis en place et suivis avec des apports de vinasse selon différentes modalités. L'objectif est de mieux comprendre l'effet azote des vinasses de sucrerie en interaction avec les cultures intermédiaires avant l'implantation de betteraves et d'améliorer les préconisations de fertilisation azotée à destination des planteurs. Donc, ces essais ont été mis en place sur des sols de limon profond du Saint-Quentinois dans le nord du département de l'Aisne. Les trois exploitations qui ont été suivies se situent sur des communes voisines et donc on a des contextes pédoclimatiques et systèmes de culture qui sont similaires. Sur ces parcelles, des apports de produits organiques sont fréquemment effectués et des cultures intermédiaires sont systématiquement implantées sur les intercultures longues. Il s'agit de suivi annuel pour chacun des essais. Donc, nous avons fait des mesures depuis la date de récolte du précédent jusqu'à la date de récolte des betteraves. Donc, vous avez ici l'exemple du dispositif qui a été appliqué sur l'un des essais, mais qui revient le même chaque année, à peu de choses près. Donc, les essais comportent 4 répétitions avec 5 modalités différentes. Le témoin sol nu sans apport de vinasse. Ensuite, 2 modalités avec apport de vinasse en août, l'une suivie de l'implantation d'une moutarde et l'autre avec une interculture nue. Une 4e modalité avec l'implantation d'une moutarde en interculture. Et enfin, la dernière modalité, un apport de vinasse au printemps sur sol nu, sans implantation de culture intermédiaire. Pour chacune des modalités, des courbes de réponse à l'azote ont été mises en place avec 5 doses d'apport d'azote minéral, donc 0, 40, 80, 120 et 160 kg d'azote par hectare. Alors, les vinasses, comme je l'ai dit en introduction, sont des coproduits issus de l'industrie sucrière. Après cristallisation et extraction du sucre, les sirops sont dilués et entrent en fermentation sous l'action de levure. Et la distillation permet de séparer les alcools de la vinasse qui est ensuite concentrée. Les produits répondent à une norme NFU 4201 sur les engrais organiques. À chaque date d'apport, des analyses de vinasse ont été effectuées. Et la composition moyenne des vinasses qui ont été épandues sur les essais donc, est de 49% de matière sèche. Et elles contiennent en moyenne 22 kg d'azote total par tonne, dont 20 kg sous forme organique. Sur les essais, la dose d'apport moyenne est de 3,3 tonnes par hectare. Des cinétiques de minéralisation ont été effectuées au laboratoire afin de caractériser le potentiel de minéralisation du carbone et de l'azote des vinasses. On remarque que ce sont des produits à décomposition rapide. La majeure partie du carbone et de l'azote est minéralisée dans les premiers jours d'incubation. Donc ici, les incubations étaient réalisées à 28 degrés. Pour le carbone, à la fin de la période d'incubation, donc 70% du carbone est minéralisé et 60% de l'azote en ce qui concerne l'azote. Donc, pour prendre en compte la minéralisation de l'azote des vinasses dans azofertes, on a défini des courbes moyennes par type de produit, qui prennent en compte des mesures au champ et les cinétiques réalisées au labo. Pour rappel, Azofert est un outil d'aide à la décision qui permet le calcul de doses d'azote à la parcelle en intégrant un bilan dynamique complet. Les courbes sont exprimées en jours normalisés Et dans Azofert, un jour normalisé correspond à un jour à 15 degrés et à l'humidité à la capacité au champ. Donc on a une courbe qui est un peu moins rapide par rapport aux cinétiques qui ont été effectuées au labo. À partir des données climatiques, Azofert permet de calculer l'azote restant à minéraliser pour la culture en fonction de la date d'apport. Pour un apport précoce, la majeure partie de l'azote est minéralisée avant la date d'ouverture du bilan, donc la contribution est moindre par rapport à des apports beaucoup plus tardifs. Sur les essais, donc, des suivis de mesures ont été régulièrement effectués. Tout d'abord, nous avons suivi les stocks d'azote minéral dans le sol à différentes dates, à la récolte du précédent, en entrée hiver et à la sortie d'hiver. À partir des mesures de reliquats en sortie d'hiver, nous avons déterminé les doses d'azote par Azofert pour les différentes modalités. Ensuite, pour les cultures intermédiaires, nous avons effectué des prélèvements pour déterminer les mesures en matière sèche carbone et azote sur les parties aériennes, mais aussi les racines certaines années. Et enfin, à la récolte en octobre, les prélèvements ont été effectués sur des témoins sans apport d'azote minéral afin de déterminer les mesures, les teneurs en matière sèche, carbone et azote des différentes parties de la betterave. Et une récolte machine a été effectuée sur toutes les modalités pour déterminer les rendements, les richesses et les critères qualitatifs tels que la teneur en azote alpha-aminé. Donc, je vais maintenant passer à la partie de présentation des résultats. Donc, ici, nous avons fait la synthèse de l'ensemble des essais de 2005 à 2012, donc 7 années d'essai, et nous avons présenté sur ce graphique les stocks moyens d'azote dans le sol, donc en entrée hiver. En bleu, donc il s'agit de les prélèvements ont été effectués sur 4 horizons. En bleu, l'horizon de surface, et en rouge, l'horizon le plus profond. Pour les modalités avec culture intermédiaire, donc les deux colonnes à droite, on remarque que les reliquats sont très faibles et ne sont pas différents qu'il y ait eu apport de vinasse ou non. Pour le sol nu, donc les deux colonnes de gauche, la quantité d'azote dans le sol nu sans apport est de 72 kg et 85 kg lorsqu'il y a eu un apport de vinasse. On remarque que dans ces situations, l'horizon entre 60 et 120 cm, il y a peu d'azote dans le profil. Nous avons fait le même graphique à partir des résultats en sortie d'hiver. On remarque qu'entre ces deux dates, on note une augmentation des quantités d'azote dans le profil. Les fournitures d'azote sont supérieures aux pertes par lixiviation. On remarque que ces transferts d'azote ont surtout eu lieu pour les cultures sur lesquelles il n'y a pas eu d'implantation, pour les modalités sur lesquelles il n'y a pas eu d'implantation de culture intermédiaire. Et pour les modalités avec implantation de culture intermédiaire, le quatrième horizon reste peu chargé en azote puisqu'on est entre 5 et 7 kg d'azote. À partir de ces résultats et à l'aide du modèle de Burns, nous avons estimé donc les quantités d'azote lixivié et les concentrations en azote sous-racinaire. Et pour les modalités sol nu, donc témoin et vinasse, les pertes sont de l'ordre de 14 kg d'azote par hectare et des concentrations en azote sous-racinaire de l'ordre de 60 mg par litre. Pour les modalités avec culture intermédiaire, il s'agit donc de la ligne moutarde et vinasse plus moutarde. Donc là, les quantités d'azote lixiviées sont très faibles, de l'ordre de 3 kg d'azote par hectare, et les concentrations en azote sous-racinaire entre 13 et 14 mg par litre. Je vais maintenant vous présenter les résultats des mesures qui ont été effectuées sur les cultures intermédiaires. Les rendements des cultures intermédiaires ont été déterminés au moment de leur destruction, donc début novembre, enfin première quinzaine de novembre. En moyenne, toute année confondue, Le rendement est de 2,3 tonnes par hectare, donc la colonne en vert pour les modalités ayant reçu des vinasses en août, contre 1,7 tonnes sur la culture intermédiaire sans apport de vinasses. Le graphique de droite représente, lui, les quantités d'azote absorbées par hectare, qui sont donc de 59 kg pour les modalités ayant reçu un apport de vinasse, contre 40 kg lorsqu'il n'y a pas eu d'apport de vinasse. À partir de ces mesures, on a pu calculer le coefficient apparent d'utilisation de l'azote de la vinasse par la culture intermédiaire. Il correspond à la différence entre la quantité d'azote absorbée par la modalité ayant reçu des vinasses et celle n'en ayant pas reçue, rapportée à la quantité d'azote totale apportée par la vinasse. En moyenne, sur tous les essais, donc 20% de l'azote de la vinasse est valorisé par la culture intermédiaire, mais il existe une variabilité interannuelle très importante, puisque ces coefficients varient de 0,03 à 0,28. Sur le même principe, on approche le coefficient apparent de l'utilisation de l'azote de la vinasse par la betterave, donc à partir des mesures réalisées sur des prélèvements réalisés sur les betteraves. Donc cette fois-ci, pour les apports de vinasse en août, 56% de l'azote de la vinasse est utilisé par la betterave pour sa nutrition azotée. Pour les apports de vinasse en février, le coefficient est un peu plus faible, on est à 49%. Et par contre, pour les modalités où il y a eu une implantation d'une moutarde, les résultats sont plus difficiles à interpréter puisqu'ils intègrent à la fois l'effet de la vinasse, mais aussi l'effet de la culture intermédiaire qui entre en interaction. Pour les apports de vinasse sur sol nu, donc vinasse août ou février, on remarque que les CAU sont cohérents avec les incubations qui ont été réalisées en conditions contrôlées. Donc pour chacun des essais, nous avons pu déterminer des doses optimales. Et la dose optimale a été calculée à partir du rendement sucre hectare, et la modalité qui donnait le rendement sucre par hectare maximal. Donc dans certains cas, ce n'est pas toujours facile à approcher. Mais donc sur le graphique, on a présenté ici les résultats pour le poids-valeur. Donc le poids-valeur en fait, correspond au rendement ramené à 16 de sucre pondéré par un coefficient en fonction des classes de richesse qui avantagent les richesses qui sont comprises entre 17,5 et 19,5. Alors, ce graphique représente les courbes moyennes du poids-valeur à l'engrais minéral pour les différentes modalités, donc en marron le témoin et en violet les modalités culture intermédiaire. Et au niveau de la barre verticale, ça correspond à l'optimum. Alors, on remarque que l'écart à la dose optimale le plus important est pour les doses faibles est observé pour la modalité CIPAN, donc en violet, la courbe la plus à gauche. Pour les modalités avec apport de vinasse sans culture intermédiaire, les courbes les plus en haut sur le graphique, la bleue et la rouge, les doses les plus faibles présentent un moindre écart par rapport à la dose optimale. Et la modalité témoin, enfin les modalités témoins et vinasse plus culture intermédiaire, elles se situent dans une position intermédiaire. On remarque aussi qu'au-delà de l'optimum, on observe une diminution des rendements. Donc, je viens de vous présenter les courbes moyennes, mais je voulais illustrer ici la variabilité interannuelle en fait, qui existe en prenant donc, cette fois-ci l'exemple d'une modalité, donc la modalité vinasse plus CIPAN. Et donc, la variabilité interannuelle est très importante. On observe donc différents cas, soit des cas de non-réponse à l'azote, soit une augmentation puis une diminution, ou bien un plateau. Donc de la même façon, nous pouvons présenter les résultats pour la richesse. Donc les richesses maximales correspondent aux modalités vinasse et vinasse août plus CIPAN, donc les deux courbes en haut. Et on remarque qu'au-delà de l'optimum, les richesses ont tendance à diminuer très rapidement. Donc on a présenté aussi les résultats des teneurs en azote alpha aminé sur le même principe, où en fait la teneur en azote alpha aminé croît avec l'augmentation de l'azote disponible dans le sol, et à la récolte, cette teneur est le principal indicateur de la disponibilité en azote pour la betterave. Donc cette teneur évolue lentement jusqu'à la dose optimale, puis tend à croître de plus en plus rapidement. Donc comme on est sur des courbes moyennes, on masque bien sûr la variabilité qui peut exister entre les années. On a aussi calculé donc, les quantités d'azote absorbées par l'hectare sur les modalités n'ayant pas reçu d'azote minéral, ce qui permet de nous donner un indicateur des fournitures d'azote du sol. Donc, sur le graphique 6 juin, on a représenté les médianes, les boîtes qui représentent les 25-75% des valeurs et les moustaches, l'étendue maximale des valeurs. Donc, les modalités vinasse août et vinasse de printemps donc, présentent les fournitures le plus de fournitures d'azote, mais ce sont aussi les modalités qui présentent la plus grande variabilité. Et pour la modalité Cipan, donc la boîte à droite, les fournitures en azote sont les plus faibles. Pour valider Azofertes, nous avons comparé donc les fournitures d'azote mesurées sur les témoins avec les estimations du logiciel. En ordonnée, nous avons présenté les estimations et en abscisse les mesures, avec chaque couleur de point pour les modalités différentes. On remarque que les quantités d'azote absorbées par hectare sur les témoins sans fertilisation varient de 120 à 280 kg d'azote pour les mesures, et Azofertes estime ces valeurs entre 110 et 260, donc dans la même gamme de variation. En moyenne, la différence observée est de 5 kg d'azote par hectare. Alors, pour conclure, donc, ces essais permettent d'enrichir une base de données sur la gestion de la fertilisation azotée de la betterave et intègrent les apports de vinasse et de la gestion de l'interculture. Ces interactions sont parfois complexes et nécessitent d'être approfondies. Nous avons aussi donc, des modalités qui sont en sol nu à l'automne qui permettent de mieux comprendre et mieux appréhender la minéralisation de la vinasse, même si ce sont des modalités qui n'ont plus cours réglementairement en raison des risques de lessivage à l'automne. Le tout permet une amélioration continue des paramétrages d'Azofertes et de la qualité des préconisations. Donc, en perspective, de nouvelles modalités de culture intermédiaire ont été intégrées ces dernières années qu'il faudra analyser et qui permettront donc de mieux prendre en compte les nouvelles pratiques et la prise en compte de légumineuses pures ou en mélange dans la rotation. Ces résultats permettent aussi donc d'alimenter les références sur la transposition des essais au champ qui seront à mettre en lien donc avec les projets en cours ou à venir dans le cadre du RMT Fertilisation et Environnement. Merci de votre attention.
Merci Caroline. Voilà, alors, le temps de quelques questions. On se remet en route pour le micro. Et pendant que la première question vient, moi je vais en profiter pour en poser une. C'est la moutarde qui a été choisie, culture connue pour sa capacité à fixer l'azote à l'automne, avec retenu de l'ordre de 2 tonnes de matière sèche en moyenne, donc des biomasses sur des intercultures longues, correctes. Hein. Donc la moutarde a bien la capacité de fixer l'azote libéré par la vinasse, c'est ce que j'ai cru comprendre. Mais est-ce qu'il faut de la moutarde ou est-ce qu'on peut envisager d'aller sur des cultures intermédiaires peut-être moins efficaces pour cette fonction de fixation de l'azote comme des légumineuses? Ou alors il y aurait un risque?
C'est vrai que là, on n'a pas encore, il y a, comme je le disais, ces dernières années, des nouvelles modalités qui ont été mises en place. On n'a pas du tout regardé les résultats, ce que ça donnait. On n'a pas suffisamment de recul déjà, puisqu'il n'y a qu'une année pour l'instant. La deuxième est en cours d'analyse. Et donc, on n'a pas suffisamment de recul pour, rapport à ces essais, je veux dire.
Sur quelle culture intermédiaire?
Il y a de la veste en mélange ou pure.
Des légumineuses associées à des graminées
À des graminées et des crucifères aussi, je crois. Je ne sais pas si quelqu'un l'a... Donc Patrice Karkov de Terros peut me compléter sur cette question.
N'hésitez pas. J'en essaye de vous repérer. Oui, voilà. Là-haut, à gauche. Et puis également, manifestez-vous pour des questions. Je sais que les trois exposés ont été très complets, donc la fatigue se lit sur les visages. Oui, je vous en prie, merci de compléter.
Pour répondre à votre question concernant les légumineuses, on a fait uniquement pour l'instant légumineuses, donc vesses plus moutarde et la moutarde de sol. Sur l'aspect piégeage, sur les deux ans de recul, il est clair qu'on est moins efficient en termes de piégeage d'azote avec une légumineuse. On a forcément des reliquats plus importants à la fois entrée hiver et sortie d'hiver. Ce qu'on peut dire là-dessus.
Merci. Oui, une question devant. Voilà. Et puis, je vois souvent les mêmes mains, hein, alors n'hésitez pas à vous manifester ici devant Marc. Le micro arrive. Hein. Voilà.
Merci. Je voulais savoir si vous avez réussi à analyser la raison des écarts entre dose conseillée et dose optimale, tenant compte des résultats d'essais. Est-ce que vous êtes arrivé à retrouver la source de ces écarts? Est-ce que c'est lié au modèle climatique ou...
Déjà, il y a une part, c'est vrai que quand on fait les conseils, on se base sur des données climatiques moyennes. Donc, il faudrait refaire tourner les parcelles à partir des données climatiques réelles pour justement voir la différence. Et dans certains cas, ça améliorerait. Ce qu'on remarque aussi, c'est que, bon, c'est pas forcément très net partout, mais pour les apports de vinasse plus culture intermédiaire, on voit qu'on a tendance à surestimer un petit peu les fournitures d'azote sur le sol. Donc il y a quelque chose à regarder là-dessus. Mais sinon, dans l'ensemble... La corrélation est assez bonne. En moyenne, on a une différence moyenne de moins de 20 kg d'azote entre la dose optimale et la dose conseillée, toutes modalités confondues et toutes années confondues.